Bonjour à tous.
Et en effet, comme notre frère Fadil l'a vraiment précisé avec fidélité, le cantique que nous avons chanté, c'est vraiment une confession de foi. Parce que nous croyons au seul Dieu vivant, nous croyons au Fils de Dieu, nous croyons au Saint-Esprit. Et nous croyons aussi au Livre Saint qui est cette autorité suprême dans l'Église. Amen. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec la série sur le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons terminer le chapitre 1 aujourd'hui. Et donc nous allons nous concentrer sur les versets 12 à 26. Donc acte 1, versets 12 à 26. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se retenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunis était d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé. S'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Amen. Il existe dans la vie d'une église ou dans la vie d'un chrétien ce qu'on peut appeler un entre-deux. Entre une étape qui se termine et une autre qui n'a pas encore commencé. Entre une promesse qui a été reçue et son accomplissement qui n'est pas encore visible. Entre une prière qui est montée vers Dieu et une réponse qui tarde à arriver. Et donc, ces versets se situent précisément dans cet entre-deux. Jésus est ressuscité. Il a parlé à ses disciples pendant 40 jours. Il leur a promis le Saint-Esprit, puis il est monté au ciel. Et maintenant, il n'est plus visible. Les disciples ne l'entendent plus avec leur oreille. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur sa présence corporelle. Et pourtant, Jésus n'a pas abandonné son peuple. Au contraire, Jésus règne, il gouverne toutes choses. C'est pourquoi ce passage n'est pas un simple couloir avant le chapitre 2, mais c'est une école de Christ. C'est un atelier où le Seigneur enseigne à son Église naissante comment vivre sous son règne. Et dans le livre des Actes, le héros n'est pas l'apôtre Pierre, ni même l'Église en tant qu'institution. Le héros, c'est le Seigneur Jésus ressuscité et exalté. Il continue son œuvre depuis le ciel. Dans le siècle présent, l'Église naissante a des blessures, vit des difficultés, vit de la persécution. Et pourtant, Dieu a fait avancer les choses par des moyens simples. Dieu a fait avancer son Église, en dépit des difficultés que son Église traverse, par des moyens simples que sont la prière, la parole, l'obéissance et l'ordre. L'Église ne se gouverne pas par une intuition, mais par l'Écriture comprise et appliquée. Et voilà ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Le roi exalté qui bâtit et qui gouverne son Église. Il a bâti ici de trois manières qui se tiennent ensemble. Et ces trois manières vont être les trois points de ce message. Premièrement, il rassemble son peuple dans l'unité et la prière. Deuxièmement, il lui apprend à lire ses crises, ses difficultés, à la lumière des Écritures. Enfin, il conduit son Église dans ses décisions parce qu'il connaît les cœurs et qu'il gouverne souverainement. Et donc, mon premier point, les versets 12 au verset 14, le roi rassemble son peuple dans l'attente, dans l'unité et dans la prière. Verset 12 à verset 14, alors ils retournèrent à Jérusalem dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ici, Luc commence avec un détail concret. Les disciples reviennent du mont des Oliviers à Jérusalem. On dit à la distance d'un chemin de sabbat. Selon la tradition juive, un chemin d'un jour de sabbat correspondait à environ 3/4 de mile, c'est-à-dire 1,2 km. Il s'agissait de la plus grande distance qu'un juif pouvait parcourir lors du sabbat, à l'époque du Nouveau Testament. Et donc, en Luc 24, 52-53, on voit que les disciples retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Nous lisons, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Et nous voyons que la lumière de l'amour de Dieu embrasait le cœur de ces hommes et faisait briller leur visage malgré les problèmes innombrables qu'ils pouvaient avoir. Jésus n'étant pas là, également. Et donc, ce retour à Jérusalem est un acte d'obéissance. Jésus leur avait ordonné d'attendre la promesse du Père. Ils auraient pu se précipiter, mais ils sont retournés à Jérusalem. Ils auraient pu dire, nous avons vu le ressuscité, allons immédiatement conquérir le monde, annoncer la bonne nouvelle. Mais non, ils sont repartis et ils attendent. Et ici, l'Église apprend une leçon de base. La mission ne se fait pas dans la précipitation, mais par la puissance de Dieu. Le zèle sans l'esprit peut produire de l'agitation, mais pas cette fécondité spirituelle dont Dieu attend de nous. L'Église commence non par une stratégie, mais par une communauté qui attend Dieu. Pour John Stott, avant d'être une Église envoyée, elle est une Église rassemblée, rassemblée sous l'ordre du Christ. Puis Luc nomme les apôtres. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jacques et Jude, fils de Jacques. Donc, pourquoi cette liste? Pourquoi il prend le soin de les nommer? Parce qu'il veut montrer une certaine continuité dans l'œuvre du Christ. Malgré la trahison de Judas, Dieu préserve le noyau de témoins. Judas, c'est vrai qu'il a trahi le Christ, mais ce noyau, fallait qu'il continue de fonctionner. Et en même temps, cette liste rappelle que Dieu utilise des hommes réels, avec une histoire réelle, parfois marquée par la chute, mais aussi la restauration. Pierre en est l'exemple ici. Pierre est là. C'est lui qui a renié le Seigneur. Renié le Seigneur. Mais il est là. Et donc, nous apprenons ici que la grâce ne fait pas que pardonner. Mais la grâce rétablit aussi pour le service. Et maintenant, voici le centre du message. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Tous. Si nous voulons comprendre vraiment le livre des Actes, nous devons nous arrêter sur ce verset. L'Église naissante n'est pas d'abord caractérisée par ses programmes, ses rencontres, mais c'est par sa posture. C'est une posture de dépendance. C'est une posture de dépendance. Dépendance à qui? Dépendance au Christ ressuscité et au Christ exalté. R.C. Sproul aime rappeler que si Jésus est vraiment Seigneur, alors la prière n'est pas un ajout, c'est la respiration de la foi. La prière dit, Seigneur, nous ne pouvons pas sans toi. Tu as promis, nous attendons, agis. L'Église devrait être dans cette posture de dépendance. Et vous remarquez le tous d'un commun accord, le tous. C'est-à-dire que l'Église n'est pas un genre de spectacle. Ce n'est pas une minorité de personnes qui effectuent le travail pendant que le reste regarde. Tous, sans exception. Tous persévérer. Ça ne veut pas dire que tous parlent de la même manière, non. Chacun de nous a des dons diverses, mais tous persévérer. Tous participer, tous s'unissent dans l'attente de Dieu. Et vous allez remarquer aussi, d'un commun accord. D'un commun accord. Ici, il ne s'agit pas seulement d'être dans une même salle. Dans une même pièce. Il s'agit d'être réunis autour du même centre, qui est le Christ. D'être réunis autour d'une même vision, la gloire de Dieu. Et cette unité n'est pas naturelle, c'est le fruit de la grâce. C'est l'Évangile qui met ensemble des personnes différentes et leur donne un même horizon. On vient tous de différents horizons, de différents arrière-plans, je veux dire, de différents pays. Mais la grâce de Dieu nous donne le même horizon, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Enfin, persévérer. Tous d'un commun accord. Persévérer. Ce qui suppose que la prière n'est pas toujours facile. Qu'elle n'est pas toujours enthousiasmante. Qu'elle peut être répétitive. Elle peut être longue aussi. Et pourtant, il persévère. Ils reviennent. Ils demandent. Ils attendent. Et Luc ajoute que cette prière est faite avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y a tout le monde là, sans exception. Sans exception. Et cela est très instructif pour nous. L'Église rassemble des disciples, hommes et femmes, unis dans la même espérance, unis pour la gloire de Dieu. Cela ne supprime pas la distinction biblique relative aux offices, mais cela affirme clairement la participation de tous au peuple de Dieu. Tous sont appelés à la prière, à la foi, à l'adoration et à la persévérance. Et Luc prend soin de préciser que l'Église naissante persévérer d'un commun accord dans la prière. Et il ajoute avec des femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et cela nous montre le climat spirituel des débuts. Avant même la Pentecôte, avant même l'expansion missionnaire, l'Église est unie dans une dépendance humble avec les hommes et avec les femmes qui participent réellement. L'Église attend la promesse du Père, elle prie, elle cherche la face de Dieu. Les femmes ne sont pas reléguées au second plan ici. Elles participent. Elles sont au cœur de la communion des saints. Je parle de la communion des saints. Parce qu'on doit quand même faire attention, on va le voir par la suite, sur les décisions qu'on prend dans une Église. Les femmes ne peuvent pas enseigner, ne peuvent pas être en position d'enseignement dans l'Église. Mais au moment de prendre une décision structurante, la désignation d'un apôtre pour compléter le collège des 12, le texte souligne que c'est Pierre qui se lève. C'est Pierre qui se lève, qui conduit l'assemblée et que l'Église agit avec un cadre ordonné, bien ordonné. Il y a donc dès le début deux vérités qui marchent ensemble. Une participation réelle de tout le peuple de Dieu et une direction officielle porté par ce que Dieu établit pour gouverner et diriger. Et donc, l'Église ne doit pas faire taire les femmes comme si elles étaient de simples spectatrices. Nous devons faire la distinction avec ce qui se passe à Corinthe, où l'apôtre Paul demande aux femmes de ne pas prendre de parole. C'était dans un contexte de désordre dans l'assemblée. Elles doivent, les femmes, au contraire, accueillir leur présence, l'Église plutôt, leur piété, leur prière, leur amen, leur chant, leur communion. Mais elles doivent aussi garder l'ordre biblique dans le culte et dans l'Église. L'enseignement public faisant autorité à la direction doctrinale revient aux hommes, qualifiés que Dieu appelait à cette charge. Et Marie. Marie ici est mentionnée avec honneur, mais sans être placée au centre comme médiatrice. Marie, nous prions pas Marie. Marie est la mère du Seigneur. Elle est une croyante parmi les croyants. Et cela correspond à une conviction biblique et confessionnelle. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et notre confession de foi en parle au chapitre 8, qui parle de Christ le médiateur, insiste sur l'unicité et la suffisance de l'œuvre médiatrice du Seigneur. Nous pouvons honorer Marie comme une servante bénie, mais nous ne nous adressons pas à elle. Nous nous adressons à Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père. Et nous voyons aussi les frères de Jésus qui sont présents dans l'assemblée. Ceux qui auparavant n'avaient pas cru à son ministère. Ils sont maintenant au milieu de l'Église. Ils persévèrent dans la prière. Et donc la résurrection de Christ a renversé l'incrédulité de ses frères. En tant qu'Église, nous pouvons aimer la doctrine. Nous pouvons aimer notre confession de foi. C'est bon et c'est nécessaire. Mais si la prière de l'Assemblée est faible, c'est notre santé qui est fragile. La confession de foi, lorsqu'elle parle du culte et de la vie religieuse au chapitre 22, rappelle que Dieu est adoré selon sa volonté avec révérence et que la prière est un élément essentiel de cette réponse. Alors, demandons-nous, sommes-nous une église qui sait attendre Dieu? Une église qui persévère ensemble dans la prière? Une église qui croit vraiment que le roi exalté entend les prières et qu'il gouverne et qu'il agit. Car avant acte 2, il y a acte 1 qui est pour nous une base. Et avant le feu, avant les tribulations, il y a la chambre haute. Là où nous avons besoin de nous recueillir. Et donc, frères et sœurs, voyons le réalisme de ce premier chapitre du livre des Actes. Il y a une église qui se rassemble et qui persévère. La foi chrétienne n'a jamais été pensée comme une vie à distance. Non, ce n'est pas une vie à distance. On ne vit pas comme des électrons libres lorsque nous faisons partie du corps de Christ. Nous ne sommes pas déconnectés du corps. Dieu nous garde et nous fortifie par des moyens ordinaires. La parole prêchée, la prière commune et la communion des saints. L'Église n'est pas un club. C'est un corps vivant. Et Christ aime profondément son Église. Il veut nous fortifier au milieu de son Église. Hébreux 10, 24 à 25, veillant les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mon deuxième point, le roi qui éclaire la crise par l'Écriture, des versets 15 au verset 20. Verset 15 au verset 20, nous lisons, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dont l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Et or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Et donc, on a terminé au verset 14, Non, pas au verset 14, mais Pierre se lève. Nous voyons qu'au début de ce verset 15, Pierre se lève au milieu des frères. Et donc on voit environ 120 personnes. Et ce n'est pas une grosse foule, grande foule, comme on le voit. C'est un petit reste. 120. On voit aussi qu'il y a des églises qui ont plus de 120 membres. Mais 120 pour cette période, c'était un petit reste. Et pourtant, Dieu s'apprête à faire de grandes choses avec ce petit reste. Déjà, cela nous pousse à nous humilier. Dieu n'a pas besoin de la puissance des grands nombres. C'est ce que nous démontre ce passage. Vous pouvez être 1000, 1500, mais on parle d'une centaine de personnes ici. Et Pierre se lève. Pierre ici n'est pas un héros autonome. Pierre ici, c'est un homme qui a renié le Christ, qui a été restauré. Et ce n'est pas anodin qu'il se lève au milieu de tous. Pierre a chuté, mais la grâce l'a relevé. Et maintenant, il sert son Christ. John Stott souligne que Pierre ne domine pas l'assemblée. Il se lève au milieu. Il conduit comme un frère sous la parole. Et sa première action n'est pas d'organiser une gestion d'image, mais c'est d'ouvrir l'écriture. Il ouvre l'écriture. L'autorité dans l'Église doit toujours être une autorité de service sous la parole de Dieu. Et il dit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Et cette phrase ici, pour nous, est un pilier. D'abord, elle affirme l'inspiration des Écritures. Le Saint-Esprit, par la bouche de David. Et donc, Pierre attribue ultimement la parole à l'Esprit. David a parlé, mais l'auteur ultime, c'est Dieu. Et voilà exactement l'esprit du premier chapitre de notre confession de foi. Où nous lisons que l'Écriture est la règle suffisante et certaine de la foi et de l'obéissance, parce qu'elle est la parole de Dieu. Ensuite, elle affirme la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Il fallait que s'accomplisse. Arcis Proul insiste ici sur une vérité qui soutient l'Église au milieu des scandales. Dieu n'est pas surpris de tout ce qui se passe. Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris parce que Judas l'a trahi. Ce n'était pas une surprise pour lui. Et cela ne rend pas le péché acceptable non plus. Cela ne rend pas la trahison de Judas légère. Mais cela signifie que le mal ne peut pas détrôner Dieu. Et notre confession de foi exprime cette même tension biblique. Dieu a décrété toutes choses au chapitre 3 et il gouverne toutes choses par sa providence. Chapitre 5. Tout en restant saint et juste sans être l'auteur du péché et sans annuler la responsabilité de sa créature. Et Pierre, précisément ici, ne retire pas la responsabilité de Judas. Il rappelle que Judas était compté parmi nous. Important, Judas était compté parmi nous. Et qu'il avait part au même ministère. C'est ce qui rend la chose ici grave. Très grave. Judas n'était pas un ennemi lointain. Il était proche du Seigneur. Il avait une place qui était visible. Il avait des privilèges en tant qu'apôtre. Et pourtant, son cœur était ailleurs. John Gill de dire, Il existe une appartenance extérieure qui peut coexister avec un cœur inchangé. Judas est le portrait tragique d'une proximité sans communion, d'un ministère sans amour, d'une présence sans foi vivante. Ce passage nous appelle à un examen de nous-mêmes. Ce n'est pas pour tomber dans un genre d'angoisse, de crainte, mais ultimement pour que nous nous réfugions en Christ. Sommes-nous seulement près des choses de Dieu ou sommes-nous unis à Jésus par la foi? Est-ce que nous sommes répentants? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous venons juste à l'église parce qu'il faut venir à l'église? Est-ce que lorsque nous prions, nous multiplions uniquement des paroles sans avoir la foi en ce Dieu en qui nous croyons? Notre confession de foi, lorsqu'elle parle de la foi qui sauve au chapitre 14, de la persévérance des saints, chapitre 17, et de l'assurance de la grâce et du salut au chapitre 18, nous aide à garder cet équilibre. Dieu garde les siens, oui, mais Dieu utilise des avertissements réels pour secouer les consciences, pour nous appeler à la repentance, afin d'être plus proche de lui, et non superficiellement. Judas était à côté du Christ. Il marchait avec Christ. Mais son cœur n'était pas avec Christ. Son cœur était ailleurs. Et maintenant, Pierre cite l'Écriture, deux psaumes. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Et cela vaut la peine de s'arrêter parce que Luc nous montre comment l'Église, à ce moment-là, lisait l'Ancien Testament. Et c'était d'une manière christocentrique aussi. Il est écrit. Et donc le premier texte correspond au psaume 69, spécialement le verset 26. On parle du psaume 69, c'est-à-dire le cri du juste, persécuté, haï sans cause. Et ce psaume a une couleur et une saveur messianique. Le Nouveau Testament l'applique à Jésus, le juste, par excellence. Et donc Pierre comprend donc que Judas, par sa trahison, s'est rangé du côté des ennemis de loin. Et le psaume prononce une parole de jugement. Que sa demeure devienne déserte. Attention ici, Pierre ne se sert pas de ce psaume pour nourrir une vengeance charnelle. Non, pas du tout. Il ne dit pas à nous la vengeance. Il reconnaît simplement ceci. Trahir le Messie n'est pas un petit péché. Trahir le Messie n'est pas un petit péché. Dieu est juste et le jugement existe. Et le second texte correspond au psaume 109, précisément le verset 8, où on parle d'un psaume de détresse, où le juste est attaqué. Il contient des paroles sévères, parmi elles, qu'un autre prenne sa charge. L'idée ici est que le rôle, la responsabilité, l'office ne restera pas entre les mains de celui qui se montre infidèle. Pierre comprend que cela s'applique aussi à Judas. Sa fonction de témoin apôtre ne doit pas rester vacante. Elle doit être confiée à un autre afin que le témoignage apostolique soit complet. Et là encore, Pierre n'en fait pas une application arbitraire. Il lit les psaumes dans la trajectoire du Messie. David, roi, oint, persécuté, est un type de Christ. Les ennemis de David annoncent ceux qui s'opposent à Christ. Et la parole de Dieu éclaire l'événement présent. Dieu retire la charge et la confie à un autre. Et ici apparaît une grande consolation. L'œuvre de Christ ne dépend pas d'un homme. L'œuvre de Christ ne dépend pas d'un homme. Pas du tout. Même la chute d'un instrument ne fait pas tomber l'œuvre du Seigneur. Non. Christ règne encore. Et il règnera toujours. Christ purifie son Église. On en parlait hier avec Mathieu, on se disait que Christ purge son Église. Il purifie son Église. Christ rétablit l'ordre et il conduit toutes choses. Vous savez, dans l'Église, il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Mais Dieu sait pourquoi il y en a qui viennent et pourquoi ils partent. Dieu sait pourquoi tout le monde d'une église peut partir et qu'il soit remplacé par d'autres personnes. Lui seul le sait. Pourquoi il le sait? Lui seul en a la réponse. Donc il rétablit l'ordre et il conduit toutes choses pour sa gloire. Et retenons ceci. Quand l'église traverse une blessure, quand l'Église traverse une difficulté, elle ne doit pas réagir selon la chair. Elle doit apprendre à dire « Il est écrit ». Elle doit apprendre à dire « Il est écrit ». Elle doit laisser la parole interpréter la crise. Et si Dieu a parlé d'avance, alors Dieu n'a pas perdu le contrôle de son Église. Non, pas du tout. Nos épreuves, nos difficultés ne sont pas hors de son gouvernement. Elles sont dans sa providence, non pour excuser le péché, mais pour accomplir ses desseins de sainteté. Important, ses desseins de sainteté et de gloire. Mon troisième point, le roi rétablit l'ordre et conduit la décision. Les versets 21 à 26. Nous lisons. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Dans le verset précédent, verset 20, Pierre tire une conclusion. Qu'un autre prenne sa charge. Il faut combler la place laissée par Judas. Mais vous remarquez, ce n'est pas un recrutement qui est pragmatique. Non. Pierre pose des critères qui sont stricts. Pourquoi? Parce que l'apostolat est un office qui est fondationnel. Il faut que l'homme ait accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension et qu'il soit témoin de la résurrection. Donc, pour qu'il soit appelé apôtre, pour qu'un serviteur soit appelé apôtre à ce moment-là, il fallait que l'homme ait accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension et qu'il soit témoin de la résurrection. Le témoignage apostolique est public, il est historique et il est direct. Ils attestent qu'ils ont vu et ils ont entendu de Christ. Et la foi chrétienne ne repose pas sur des impressions, mais sur des événements qui sont attestés dans la parole de Dieu. Et John Stott de nous rappeler, avant d'envoyer l'Église au monde, Dieu fixe solidement le fondement. Dieu ne veut pas une mission bâtie sur du sable. Et deux hommes sont proposés. Joseph Barsabas et Matthias. Donc nous voyons que Dieu avait, en plus des 12, d'autres disciples qui étaient fidèles, qui le suivaient. En fait, qui étaient souvent invisibles, mais qui étaient préparés dans l'ombre. Et ça, ça nous montre que l'Église ne voit pas tout. Mais Dieu, lui, sait. Et il sait qui prépare. Lui seul le sait. Mais nous, nous ne voyons pas tout. Et donc, puis vient ce moment magnifique. L'Église qui prie. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Cette prière est une confession de foi. Une confession de foi. Elle confesse l'omniscience du Seigneur. Parce qu'il connaît les cœurs. Il est le seul à connaître nos cœurs. Et cette prière confesse la souveraineté du Christ. Parce que c'est lui qui choisit. Ce ne sont pas les hommes. Et cette prière confesse la dépendance de l'Église. Et c'est profondément biblique parce que Dieu règne. Donc, nous prions. Dieu est souverain sur toutes choses. Et donc, nous prions. La souveraineté de Dieu ne tue pas la prière, elle la rend cohérente et pleine d'espérance. Et ensuite, les apôtres, tout le monde, tirent au sort. Et John Stott note que c'est la dernière occurrence de cette pratique dans le Nouveau Testament. Après la Pentecôte, l'Église discernera autrement sous l'éclairage plus explicite de l'Esprit. Par la sagesse, par la parole, la reconnaissance des qualifications, la prière et parfois l'unanimité. Donc, nous ne transformons pas ce détail en méthode normative pour toutes nos décisions. Pas du tout. Mais nous retenons le principe. L'Église cherche la volonté de Dieu pour toutes ses décisions. L'Église cherche la volonté de Dieu pour toutes ses décisions. Et le texte conclut, « Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Et donc, tout est prêt pour la suite. Les 12 sont là, sont prêts à aller annoncer l'Évangile. Ici faisant un lien clair avec notre confession de foi qui part de l'Église au chapitre 26. Elle affirme que le Christ est le chef et le roi de son Église, qu'il gouverne son peuple par sa parole et son esprit, et qu'il a donné des moyens pour l'édification et pour l'ordre dans son Église. Ce que nous voyons dans Acte 1 est un exemple vivant. La parole est claire. Par la prière, nous démontrons notre dépendance. L'ordre est rétabli et l'Église avance, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est guidée par l'Esprit. Et parce que son roi est fidèle et prend soin d'elle. Et c'est une grande consolation pour nous. L'Église n'est pas fragile au point qu'un homme puisse l'anéantir. Judas a trahi, le Seigneur n'a pas cessé de régner. L'œuvre continue. Le roi purifie, le roi corrige, le roi établit l'ordre et le roi conduit sa mission. Et donc pour finir, en conclusion et application, ce message nous montre une église dans l'attente. Une église dans l'attente marquée par une trahison, avec une place vide. Et pourtant, elle est étonnamment stable. Pourquoi ? Parce que le centre ne change pas. Le centre ne change pas. Christ règne. Et Christ est roi. Et il est exalté. Alors, quelle application devons-nous porter avec nous ? D'abord, apprenons à honorer la chambre haute. Nous vivons dans un monde qui veut tout vite. Nous sommes submergés par tant de choses. Apprenons à honorer la chambre haute. Avant la puissance, la prière. Avant la mission, l'attente obéissante. Peut-être que vous traversez une saison où vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous avez l'impression que Dieu est si loin. Mais non, il connaît les cœurs. Il sait de quoi vous avez besoin. Et il répondra en son temps. Parce qu'il est notre roi et il règne sur tout. Et ne confondons pas le silence apparent et une absence réelle. Le roi exalté travaille hors de notre vue. Ensuite, quand une crise survient, une trahison, une chute, un scandale, une déception, ne laissons pas la chair interpréter l'événement. Ne laissons pas nos émotions. Il y a la place aux pleurs, oui. Mais il n'y a pas la place à des graines de division. Revenons à l'écriture. Apprenons à dire « Il est écrit ». Non pas pour devenir froid, non, pas du tout, mais pour devenir stable et prudent et cohérent dans la parole de Dieu. La providence de Dieu ne rend pas le péché excusable, mais elle rend l'Église consolée et rien ne renverse le trône de Dieu. Aussi, prenons au sérieux l'avertissement de Judas. Il était proche, mais pourtant il était perdu. Cela doit produire non pas un soupçon envers tous, mais de l'humilité pour soi. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, donne-moi une foi vivante. Seigneur, donne-moi de te suivre de tout mon cœur. Et si nous sommes troublés, la réponse n'est pas de nous regarder nous-mêmes sans fin. La réponse est de regarder à Christ. De venir à lui, de nous repentir, de croire et de nous attacher au Sauveur qui pardonne. Enfin, dans les décisions d'Église, dans le choix de serviteurs, dans les orientations, dans les saisons de transition, prions avec persévérance. Cherchons la face du Seigneur, reconnaissons qu'il connaît les cœurs, reconnaissons que c'est lui qui bâtit son Église. Et retenons la grande vérité, le roi exalté bâtit son Église. Il la rassemble dans la prière, il éclaire par la parole, il la conduit par sa souveraineté. Alors demandons-lui de faire de nous une Église d'acte 1. Qu'il fasse de nous une Église d'acte 1. Une Église qui persévère dans commun accord. Une Église qui aime l'Écriture, une Église qui marche dans l'ordre et la dépendance, jusqu'à ce qu'il donne la puissance qu'il a promise selon son temps. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, roi exalté, chef de l'Église. Nous t'adorons parce que tu n'as pas abandonné ton peuple. Tu le gouvernes, tu le gardes, tu le purifies, tu le conduis. Pardonne notre empressement charnel et notre faiblesse dans la prière éternelle. Fais de nous une assemblée unie, persévérante, d'un commun accord devant toi. Apprends-nous à lire nos épreuves, Seigneur, à la lumière de ta parole, cette parole qui est inspirée. Donne-nous de la sobriété face au péché, la grâce pour restaurer et la sainteté qui honore ton précieux nom. Seigneur, par ta grâce, conduis notre Église dans ses décisions. Toi qui connais les cœurs, garde-nous du pragmatisme éternel. Garde-nous de l'orgueil, garde-nous de la peur et donne-nous de chercher ta volonté avant toute chose. Nous attendons ta puissance, nous espérons tes promesses et nous nous reposons, Seigneur, sur ton règne. À toi soit la gloire, si au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te prions. Amen.